Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde Compassion et Consolation, nos premières âmes missionnaires. On va commencer par un temps de laude et de prière. Donc je laisse le micro à Frère Samuel.
Seigneur, ouvre mes lèvres.
Et ma bouche publiera ta louange. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en moi, Seigneur, oh, viens me visiter. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi. Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Esprit Saint, viens purifier ma vie, lave ce qui est souillé, rends-moi mon chemin, garde-moi du péché, mon cœur est prêt, Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Je chanterai pour le Seigneur éclatante et sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer rouge. La grandeur de ta gloire a brisé tes adversaires. Tu envoies ta colère qui les brume comme un chaume. Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent. Comme une digue se dressent les flots. Les abîmes se figent au cœur de la mer. L'ennemi disait, je poursuis, je domine. Je partage le butin, je m'en repais. Je tire mon épée, je prends les dépouilles. Tu souffles ton haleine, la mer les recouvre. Comme du plomb, ils s'abîment dans les eaux redoutables. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, terrible en ses exploits, auteur de prodiges? Tu prends ta main droite, la terre les avale. Tu conduis par ton amour ce peuple que tu as racheté. Tu le guides par la force vers ta sainte demeure. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur règnera pour les siècles des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier.
De la deuxième lettre de saint Pierre. Frères, redoublez d'efforts pour confirmer l'appel et le choix dont vous avez bénéficié. En agissant ainsi, vous ne risquez pas de tomber. C'est ainsi que vous sera généreusement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Voyez quel grand amour nous est donné. Voyez quel grand amour nous est donné. Enfants de Dieu, nous le sommes dans le Fils unique. Voyez quel grand amour nous est donné. Au-delà de toute souffrance, une joie sans fin nous attend. Voyez quel grand amour nous est donné. Sur nous se lèvera le soleil de justice. Le Christ notre Dieu, sur nous se lèvera le soleil de justice. Le Christ notre Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu. Quand nous visite l'astre d'en haut pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Sur nous se lèvera le soleil de justice, le Christ notre Dieu.
Nous sommes tes enfants, Seigneur, voilà pourquoi nous sommes heureux dès ce matin de te redire que tu es notre Père qui nous aime tous. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Dieu qui a donné à Saint Jérôme de goûter la Sainte Écriture, d'en vivre intensément, fais que ton peuple soit davantage nourri de ta parole et trouve en elle une source de vie. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant dans son amour vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen.
Bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Merci pour ce temps de prière. Donc la table ronde va démarrer, donc compassion et consolation, nos premières armes missionnaires. Juste avant que ça démarre, j'ai une petite explication pour poser vos questions. On va vous proposer de les proposer via vos téléphones. Vous alliez sur menti.com. Donc je ne sais pas si vous pouvez y aller parce que vous allez devoir rentrer, ou prenez-le en photo, vous allez devoir rentrer le code menti qui est indiqué sur la planche. Je vais le redire après pour ceux qui... Je vais le redire pour ceux qui ne voient pas bien. Donc, vous allez devoir indiquer ce code, ouvrir les questions Q&A, questions et réponses. Et du coup, ça vous permettra de rentrer votre question. Et comme ça, vous pouvez les rentrer tout au long de la présentation. Et moi, je les ferai passer à la journaliste pour qu'elle les pose. Donc, vous pouvez essayer. Je sais pas si quelqu'un a des questions menti, donc menti.com. Et le code, c'est 56 16 63 73. Je vous laisse un peu de temps. Je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde.
Voilà, pour vous, auditeurs.
C'est ça qui vous permettra de poser vos questions.
Le site menti.com, si vous voulez poser vos questions.
Pendant que vous
le code
de noter,
56
je vais,
16
donc faire venir tous
63
les intervenants de la
73.
Table
donc, je vous le répète,
Caroline
le code
Basse, qui va
56 16 63 73 sur menti.com.
Voilà, c'est bon. Très bien, top. Alors, oui. Voilà. Vous pouvez prendre les micros. Voilà. Voilà.
La table ronde s'installe et va débuter d'ici quelques secondes maintenant.
Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette chapelle Sainte-Anne. Alors, soyez bénis, tous et toutes, hein, sur ce beau thème de la compassion et de la consolation, nos armes missionnaires. La consolation court tout au long de notre vie, depuis notre naissance et jusqu'à notre mort. Nous ne cessons de la côtoyer lorsque nous sommes enfants, secrètement, et lorsque nous devenons adultes, tous, à un moment ou un autre de notre vie, nous vivons des épisodes difficiles, douloureux, de tristesse, de séparation, de maladie, de deuil, de découragement, de grande lassitude. Et c'est en partie dans les liens humains, dans les liens fraternels, continuant d'être entretenus en particulier par la compassion et la consolation, qui vont nous aider à nous inscrire à nouveau dans un mouvement de vie et un mouvement de joie et un mouvement d'espérance. Alors comment proposer Jésus aujourd'hui dans un monde en crise, un monde où l'individualisme prend le dessus, une société qui n'a plus de point de repère et manque terriblement d'espérance, de confiance et de joie. Insécurité, guerre, épidémie, changement climatique, crise économique, sociale et ecclésiale. Et si l'Évangile, je dis bien, et si l'Évangile était la consolation, et si l'Évangile était la libération, et si l'Évangile était la guérison des cœurs, la résurrection des cœurs. Et si nous tous, vous tous, ici présents, vous deveniez ces consolateurs, missionnaires. Voilà, donc nous nous lançons ce défi maintenant autour de cette table ronde avec ces invités, ces témoins que je remercie, Olivier, Caroline et Daniel. Alors tout d'abord, je me tourne vers la seule dame autour de cette table ronde, un peu stressée, il faut l'avouer, hein ? Oui, 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 un peu paniquée, mais avec audace et courage, elle a dit oui pour ce temps de mission qui nous invite à ouvrir nos cœurs pour devenir maintenant ou demain ces missionnaires consolateurs, pleins de compassion. Alors tout d'abord, bonjour Caroline Basse.
Bonjour à tous.
Alors vous êtes mariée, mère de famille nombreuse, 8 enfants, issue d'une famille chrétienne. Vous vivez à l'âge de 17 ans une vraie rencontre avec le Jésus. Vous vivez plusieurs miracles que la science ne va pas pouvoir expliquer. Vous êtes engagée dans un groupe et dans le noyau d'un groupe charismatique, Lève-toi. Et en 2023, en janvier 2023, vous créez le Bon Samaritain. Voilà. Alors racontez-nous très vite, en introduction, votre appel à la mission en particulier et la mission de consolation. Et merci Caroline.
Alors, je ne sais pas par où commencer parce que l'appel à la mission, pour moi, c'est un sujet vraiment qui me brûle le cœur. Je pense que j'avais cet appel déjà plus jeune. Vers l'âge de 17-18 ans, j'ai voulu partir pour m'occuper de prostituées en Thaïlande et avec une communauté, et mes parents se sont opposés à ce projet. Donc voilà, j'y suis pas allée. Et puis j'ai oublié en fait tout ça, je me suis mariée, voilà, on a eu plein d'enfants et j'ai complètement oublié cet appel que j'avais profond en moi. Et puis, un jour, j'étais en train de prier dans ma maison. Et là, j'ai eu une vision. J'ai vu un grand aigle avec des grandes ailes qui s'étendaient comme ça. Et le Seigneur m'a dit, cet aigle, c'est toi. Et moi, je ne comprenais pas parce que je me voyais plutôt comme un petit poulet que comme un grand aigle. Ça ne me parlait pas du tout, cet oiseau-là. Et je ne comprenais pas, mais j'ai accueilli cette image. Et puis on est parti en Belgique avec mon mari, et c'était la messe des cendres. On était dans une cathédrale, et là le Seigneur me montre quelqu'un. Et le Seigneur me demande de prier pour une personne en particulier. Et moi j'ai lutté pendant toute la messe parce que je me disais non, mais cette personne elle n'a pas besoin de prière. Et puis j'avais tellement de combats intérieurs. Et puis j'ai décidé d'obéir à ce que l'Esprit Saint me demandait. Je suis allée demander à la fin de la messe, je suis allée vers cette personne, je lui ai dit bonjour, je m'appelle Caroline, je sens que vous avez besoin de prière, est-ce que vous acceptez que je prie pour vous? Et elle m'a dit oui, elle s'est jetée dans mes bras et elle a commencé à pleurer dans mes bras. Et du coup, elle m'a confié tous ses soucis et j'ai prié avec elle pour chacun de ses enfants. Et puis l'après-midi, on avait prévu avec mon mari d'aller à Lille et on a traversé le centre-ville. En fait, on s'est trompé de chemin, on devait aller à atterri dans le centre-ville. Et là, je vois une jambe derrière un poteau et je sens que cette personne que je ne voyais pas avait besoin de Jésus. Je dis à mon mari, s'il te plaît, il faut que tu arrêtes la voiture parce que cette personne a besoin de prière. Alors, il a arrêté la voiture. Il y avait plein de gens qui étaient par terre. Mais je savais que c'était cette personne-là qui avait plus spécialement besoin de Jésus. Je suis allée le voir. Je lui ai donné la main. Je lui ai dit, monsieur, s'il vous plaît, permettez-moi de prier pour vous. Et comme le matin, il s'est jeté dans mes bras. Et il m'a dit, vous savez, madame, j'étais en train de réfléchir comment j'allais me suicider. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et c'était début décembre, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme effort de carême? D'habitude, je me prive toujours de chocolat. Et là, le Seigneur m'a demandé d'aller dans la rue pour aller prier pour les personnes. Voilà, ça c'est le début de mon chemin.
Alors, voilà, merci beaucoup Caroline. Voilà, moins de stress? Ça va mieux? Alors, je ne vous ai pas présenté tout le monde en début de table ronde. À mes côtés, Olivier Fermont. Merci Olivier d'être toujours présent. Alors, quelques mots de présentation. Vous êtes marié, vous êtes père de 4 enfants, auto-entrepreneur d'aide à la personne et au fond, missionnaire avec un appel du Seigneur très jeune, dès l'âge de 12 ans. Vous serez amené à vivre en communauté, puis vous serez conduit à vivre aussi des missions d'évangélisation en France et à l'étranger. Et je pense que cette parole biblique va vous parler au cœur et au cœur de tous ceux qui sont présents maintenant dans cette table ronde. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce que l'on aime. Viens et suis-moi. Donc ce thème que nous abordons aujourd'hui, ce matin, de compassion et de consolation, nos armes missionnaires, au fond, ce sera ma première question. C'est quoi un missionnaire consolateur pour vous? Après, je dirais, on ne compte plus toutes ces années de mission. Très simplement, Olivier.
Peut-être d'abord dire que la parole biblique que vous avez citée, c'est celle que j'ai reçue quand j'avais 12 ans, alors que j'étais dans ma chambre tout seul à prier et que le Seigneur est venu me visiter. Et ça a fait un tournant dans ma vie, puisque j'ai quitté mes parents, j'ai quitté ma famille pour suivre Jésus. Et depuis mes 12 ans jusqu'à aujourd'hui, un fil conducteur, c'était l'évangélisation, annoncer Jésus. Et... Tout au long de ma petite existence, le Seigneur me sollicitait ici ou là pour l'annoncer, pour évangéliser, pour annoncer son nom. Et le fer brûlant de cette affaire, c'est être saisi dans les entrailles, de se dire mais, ah là là, dehors, il y a des frères et sœurs qui souffrent, qui crient parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont sauvés, parce qu'ils n'ont pas encore goûté de son amour. Et moi, je sais, nous savons, Dieu s'est révélé à chacun d'entre nous. Est-ce que je peux garder ça pour moi? Et je crois que le cœur de compassion, c'est ce cœur qui a mal de se dire que des frères et sœurs sont en souffrance parce qu'ils ne savent pas encore qu'ils sont aimés inconditionnellement. Et petit exemple, en terminale, j'étais le seul garçon de ma classe et... du coup, les filles, elles savaient que j'étais chez des religieux et du coup, elles me posaient plein de questions qu'elles n'osaient pas poser peut-être à leurs parents, leurs amis, leurs copines, tout ça. Et en cours d'économie, style, Olivier, tu penses quoi de l'avortement? Tu penses quoi du suicide? L'amour, c'est quoi? Le sexe? Et moi, j'étais là, bah, j'essayais de répondre avec mes petits mots. Mais derrière ces questions-là, il y avait des questions fondamentales, des âmes qui cherchent vraiment. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Jeunesse Sumaire et que j'ai fait tout un chemin pour devenir de plus en plus missionnaire, apprendre à être missionnaire. Mais l'apprentissage d'être missionnaire, c'est finalement d'abord de s'en remettre à Dieu et d'accepter, de plier le genou devant lui et d'accepter qu'il refaçonne notre cœur à son image pour que notre cœur de pierre devienne un cœur de chair. Voilà, c'est ma petite expérience.
Merci, on va vous retrouver. Hein. Je me tournais vers notre troisième intervenant, témoin aujourd'hui pour cette table ronde sur un très beau thème. Et vous avez dit oui. Bonjour, bonjour Daniel Desbois.
Bonjour,
alors, quelques
Nathalie.
Mots de présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui vous découvrent aujourd'hui, en ce temps de congrès mission. Vous êtes marié, mais veuf depuis 2 ans. Père et grand-père, vous êtes ici, autour de cette table, en tant que psychologue, puisque vous pratiquez depuis longtemps l'écoute psycho-spirituelle depuis votre conversion qui date de 1992. Vous travaillez sur l'articulation, la croissance psychique et l'expérience spirituelle. Et votre objectif, Daniel, est d'accompagner la personne sur son chemin de libération intérieure. Ça, c'est le cœur, je dirais, aujourd'hui, de votre belle mission. On ne parle que de mission. On parle aujourd'hui d'un cœur de missionnaire, mais un cœur qui se fait consolation pour ses frères et sœurs. Alors tout d'abord, pourquoi avoir dit oui à cette table ronde et pour ce thème qui vous parle certainement, Daniel? Merci.
Bien, c'est vrai que mon métier, c'est un... C'est une table d'évangélisation, parce que quand les personnes viennent, déjà, je les mets en face de moi, bien sûr, et derrière moi, il y a la croix, il y a la Vierge Marie, il y a toute la petite famille du ciel qui est là. Et je sais qu'à un moment, qu'elle soit croyante ou pas croyante, je sais qu'à un moment, je leur poserai la question, est-ce que vous croyez en Dieu ? C'est vrai que les gens qui viennent me voir sont des gens qui sont les personnes qui sont en difficulté. Elles ont besoin d'être consolées, c'est évident, parce que quand on est blessé par l'amour, ça veut dire que très tôt, déjà le petit enfant, lui, il ne demande qu'une seule chose, c'est de recevoir un amour infini. L'enfant est fait pour l'amour, il n'attend que l'amour, mais dans une famille, on fait ce qu'on peut, en tant que papa, en tant que maman, et c'est un lieu d'amour, et en même temps, c'est un lieu de blessure. Donc les gens que j'ai en face de moi, ce sont des gens qui viennent pour espérer, et ils y arrivent, être libérés de tout ce qui les empêche d'aimer. Quand l'amour est blessé, le cœur est fermé, parce qu'il y a des défenses qui se mettent en place. Et mon objectif, c'est de marcher côte à côte avec elles, pour que petit à petit, toutes les peurs qu'il y a du fait que je mette des défenses, c'est que j'ai peur d'être blessé à nouveau. J'ai peur d'être blessé à nouveau. Et en même temps, ces défenses-là me coupent non seulement de l'amour, mais le coupent de Dieu aussi. Parce que c'est lui qui est la source. Donc mon lieu de travail, c'est un lieu merveilleux, parce qu'en même temps, j'apprends par les gens. Ce sont des personnes qui viennent aussi me donner des choses au travers de leurs blessures, m'aident à comprendre. Et puis le Seigneur est toujours là pour tracer le chemin pour chacune. Et ça, je trouve que c'est absolument merveilleux, quoi. Donc voilà, chez moi, c'est sûr que c'est un lieu d'espérance. Et dès l'instant où il y a espérance, il y a Jésus. Voilà, donc je suis là uniquement pour parler de Jésus, même si les personnes sont communistes. Ce n'est pas un problème.
Alors, j'ai juste envie de rebondir, Daniel, sur ces peurs aussi, donc autour de la peur, autour des défenses. On est dans ce thème de consolation. Est-ce qu'il est difficile de se laisser consoler, vous qui avez une expérience aussi d'un travail d'écoute avant tout, et puis vous l'avez dit, vous allez le redire, des personnes qui viennent parce qu'elles ont besoin de libérer, de déposer un cœur qui est profondément ou abîmé, brisé, et donc est-ce qu'il est facile de se laisser consoler?
Il est difficile de se laisser consoler parce que quand une personne est blessée, elle a un fort doute à l'amour. Et la plupart des personnes, quand elles viennent, quand on est en difficulté, qu'on souffre, qu'on voit qu'on fait souffrir aussi autour de soi, il y a toujours une culpabilité de fond. Parce qu'en fait, je suis chrétien. Hein. Les personnes disent, mais je suis croyant, je suis croyante, et j'ai du mal à croire en l'amour, mais c'est normal. Dans la mesure où la personne est blessée, la personne est repliée sur elle-même. Et je trouve quelque chose qui est fondamental quand une personne vient en difficulté, puis qu'elle amène aussi tous les problèmes. Elle a surtout besoin d'être consolée avant d'être condamnée. Parce que la plupart du temps, c'est vrai, quand on voit une personne, on dit avec tout ce qu'elle fait, la manière dont elle vit, elle ne peut qu'avoir des problèmes. Donc c'est très culpabilisant parce qu'elles savent qu'elles sont dénoncées par l'autre, par les proches. Si tu faisais ceci, ben ça irait mieux. Si tu faisais cela, ça irait mieux. Mais la personne ne peut pas. Tout simplement parce que, à la base, on a tous besoin, avant d'être culpabilisé par celui qui sait, autour de la famille, les proches qui nous disent « tu devrais, tu devrais, tu devrais », avant d'être condamné, on a besoin d'être consolé. Tant qu'une personne n'a pas été consolée dans son innocence, parce qu'en fait les blessures viennent, elles remontent à très très loin, l'enfant est blessé dans son innocence. Il a besoin d'être restauré dans sa dignité d'être aimé. Et cette restauration de la dignité d'être aimé prend du temps. C'est pour ça que ce que Nathalie dit, ça prend du temps parce qu'il y a une protection qui est naturelle. Je ne veux pas être blessé à nouveau. Être consolé, c'est ouvrir son cœur et être vraiment vu dans ce que le Seigneur dit, tu es une merveille. La personne a besoin de retrouver sa dignité pour pouvoir se laisser faire et se laisser aimer. Donc c'est la première étape.
Merci Daniel, je me retourne. Caroline est toujours là, Olivier aussi. Vous avez envie, l'un et l'autre, de réagir, de donner une réaction. Olivier.
Par rapport à la consolation, en pensant à cette table ronde, je me disais, mais soi-même, on peut se poser la question, mais est-ce que j'ai besoin d'être consolé? Et sur quoi est-ce que j'aurais besoin d'être consolé? Ensuite, est-ce que j'accepte d'être consolé? Pas facile la démarche d'aller peut-être vous voir pour accepter de se laisser consoler. Et par rapport à notre sujet du congrès mission, par rapport à la mission, est-ce que j'accepte d'être dans cette démarche de consoler? La compassion, ça veut dire souffrir avec. Et consoler, c'est finalement la mise en action de la compassion. Donne-nous, Seigneur, un cœur de compassion. Dans la parole de Dieu, c'est incroyable, mais la manière dont c'est écrit, hein, dans Matthieu, par exemple, si je prends le chapitre 14, verset 14, « En débarquant, il vit une grande foule de gens, il fut saisi de compassion envers eux et guérit les malades. » Et il y a plein de versets, en fait, où Jésus est d'abord saisi de compassion. Et parfois, on voit dans les médias, il y a eu quelqu'un qui est mort de manière tragique, les gens mettent des fleurs, mettent des petits panneaux à l'endroit où ça s'est passé, les gens témoignent, vous la connaissiez? Ah non, pas du tout. Et la personne, elle pleure pourtant. Elle est saisie de compassion, elle souffre avec, parce qu'elle comprend la situation. Waouh! Et derrière, consolation, l'agir. Et la manière dont je le vois, et de là où on parle aujourd'hui, c'est... Ben, finalement, quand on rencontre des personnes en mission, on entend beaucoup de choses et des souffrances, des abîmes de souffrances. Et des fois, je me dis, mais comment ils ont pu vivre tout ça? Comment est-ce qu'ils arrivent encore à vivre aujourd'hui en ayant vécu tout ça? Et là, le cœur qui se dilate, Jésus qui passe et qui vient pour amener une parole de consolation. Parce que Jésus est tout puissant.
Caroline.
Alors moi, sur ce sujet, je compléterai ce qu'a dit Olivier en donnant des petits exemples concrets peut-être de ma vie. Je me souviens une fois, on était dans le Nord et je vois un monsieur qui était tout courbé, il ne pouvait plus avancer. Et dans mon cœur, je me suis dit, oh là là, le pauvre, vous voyez. Donc c'est une pensée humaine. Et là, j'entends le Saint-Esprit me dire, mais pourquoi tu ne vas pas prier pour lui? Voyez, alors, c'est sûr qu'on ne peut pas forcément à chaque fois s'arrêter dans la rue, à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui souffre. Mais quand vous sentez que votre cœur est pris de compassion pour quelqu'un, en fait, c'est un appel de Dieu aussi à aller prier pour cette personne. Et donc, je suis allée vers ce monsieur. Il y avait une une série de personnes autour de lui qui essayaient de le faire avancer, mais il ne pouvait plus. Et je lui ai proposé, j'ai dit, monsieur, est-ce que vous acceptez que je prie pour vous? Et les gens autour m'ont dit, nous, on n'a pas la foi. J'ai dit, c'est pas grave, vous pouvez prier avec moi quand même. Moi, j'ai la foi en Jésus. Et on a prié, c'était vraiment très beau parce qu'ils ont prié avec moi pour ce monsieur. Je ne l'ai pas vu se redresser comme ça, se mettre à marcher. Mais après la prière, il y avait une paix qui était rentrée dans son cœur et je l'ai vu se mettre en mouvement. Et ça, c'était vraiment très beau. En fait, mon témoignage d'aujourd'hui, moi, c'est juste vous montrer qu'une petite mère de famille, de rien du tout comme je suis, voyez, en fait, c'est juste essayer de répondre à cet appel quand on voit quelqu'un qui souffre, de se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Où est-ce que tu m'attends? De se mettre en mouvement, en fait, parce que nous chrétiens, nous catholiques, on a les sacrements, on a plein de choses que nous donne l'Église. Mais moi, je pleure souvent. Souvent, je pleure quand je suis à la messe, par exemple, parce que je vois si peu de catholiques se mettre en mouvement pour aller prier pour les personnes. Et là, je pense qu'on est dans une phase où le cœur des hommes est prêt pour la bonne nouvelle. En fait, les hommes ont tellement soif. On est descendu si bas, il y a tellement de souffrance que le cœur est prêt. En fait, ils attendent juste qu'on vienne vers eux.
Merci Caroline. Au fond, Daniel, et je me tourne vers, je dirais, notre psy de cette table ronde. Pour devenir, je dirais, ce missionnaire consolateur, Daniel, faut-il que ce missionnaire soit passé par, je dirais, lui-même, une grande consolation pour entrer ensuite dans ce mouvement, cette dynamique donc de vie, mais surtout de mission. On est ici dans ce congrès mission et c'est l'objet un peu de cette table ronde et de toutes les personnes qui sont ici. Je pense que vous tous, vous vous sentez missionnaire. Vous participez au congrès mission. Vous êtes certainement missionnaire, donc un missionnaire qui a certainement cet appel aujourd'hui, maintenant, et je l'espère, de devenir vraiment ce consolateur et ces consolateurs pour vos frères et sœurs. Mais faut-il être profondément, au fond, presque guéri, avoir été visité dans ce cœur, dans ses profondeurs, avoir été réconcilié, Daniel, et ça c'est peut-être la question du moment, avec le cœur de notre Père du Ciel?
Je pense que la première mission que nous avons à vivre, c'est la mission avec nous-mêmes. Avant de partir, donner le Christ, il est essentiel de le recevoir. Ah oui. Tant que je n'ai pas reçu le Christ, qu'est-ce que je vais donner sinon moi-même? Donc je pense que cette première mission, c'est-à-dire que on prend Jésus qui s'est occupé des apôtres pendant des mois et des mois, 2 ans avant de les envoyer en mission, c'est-à-dire qu'il s'est occupé d'eux pour qu'ils le connaissent et qu'ils le reconnaissent comme Messie. Mais en même temps, il les a travaillés au corps et au cœur pour qu'ils apprennent eux à se connaître. Donc, évidemment, comment est-ce que je vais faire pour les apôtres, ils l'avaient tous les jours, hein, Jésus. Mais nous aussi, on peut l'avoir tous les jours, et tous les jours, on est invité à rentrer dans une vie de prière, dans une vie d'adoration, dans une vie d'oraison. On a tout ce qu'il faut, tout ce que nous donne l'Église pour apprendre par Jésus à être évangélisé comme Jésus évangélisait les apôtres. Donc ce cœur à cœur et cette intimité avec Dieu, comme ça a été évoqué là à l'instant, tout à l'heure, cette intimité avec Dieu, ce cœur à cœur est absolument fondamental. Sinon, je vais avoir du mal à partir en mission. Même si il ne faut pas être saint pour partir en mission. Je peux partir en mission, d'une part, parce qu'il faut être appelé. C'est vrai que l'idéal, c'est d'être appelé. Ce que disait tout à l'heure Olivier, donc l'idéal c'est d'être appelé pour pouvoir être totalement libre dans ma mission. Mais je peux aller en mission aussi pour apprendre à aimer. Souvent, j'ai un cœur qui est un peu tourné vers moi-même, vers mes blessures, et c'est bon de s'ouvrir vers les blessures des autres pour se décentrer de soi. Parce que quand je vais aller vers les autres, je vais aller vers Jésus souffrant. Quand je prie, c'est pas, je ne prie pas pour la personne, je prie pour Jésus souffrant. Et c'est Jésus souffrant qui accueille ma prière et qui va consoler la personne. Comment est-ce que je peux consoler, moi, quelqu'un qui est blessé? Je ne peux pas. J'ai une petite prière qui est indispensable, mais la consolation, c'est le Christ qui va la donner. Donc je vais prier le Christ, Jésus souffrant, chez l'autre, et Jésus va consoler la personne.
Merci, Daniel. Olivier.
C'est par tes plaies que nous trouvons la guérison. C'est quand même fou de se dire que c'est par le sang de Jésus que nous trouvons la guérison. Eh bien, dans notre propre histoire, nous avons des blessures. Nous avons été blessés. Et Dieu est venu, nous a consolés, a guéri. Parfois, c'est un chemin qui est long, parfois, voilà, qui n'est pas encore fini. Mais quand je pars en mission, le Seigneur utilise ses blessures pour rejoindre le frère ou la sœur. Il ne faut pas avoir tout vécu, hein, être blessé de tous les maux pour partir en mission. Heureusement, alléluia. N'empêche que notre histoire, ce que l'on a vécu, eh bien le Seigneur s'en sert pour venir toucher le cœur du frère ou de la sœur qui en a besoin. Donc ce n'est pas rien, c'est pas rien. Ces blessures-là, n'attendons pas d'être formé 100%, guéri 100%, parfait 100%, miséricordieux 100%, vous prenez tous les commandements 100%, sinon vous serez jamais, nous ne serons jamais missionnaires. Jamais. Non. Par contre, nous osons, quand nous sommes appelés, il faut oser dire oui. Vous savez, quand j'ai été personnellement invité à cette table ronde, j'ai dit « pourquoi moi ? Qu'est-ce que je veux dire ?» C'est flippant, en fait. Je sais pas si vous imaginez, en tout cas, pour moi, c'est flippant. Il dit, mais ok, j'ai pris quelques jours de prière. J'ai dit, mais Seigneur, si l'équipe du Congrès Mission me sollicite pour cette table ronde, c'est qu'ils ont reconnu que peut-être j'ai quelque chose à donner. Donc j'arrête mes calculs ici et je descends là. Ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage aux frères et sœurs? Ok. Et oser. Et on laisse faire le Seigneur.
Je vais essayer. Ah oui, ça marche. Merci, Jérémy. Je reviens vers Caroline. Je voulais réagir à Olivier. Oui, allez-y.
Moi, je suis vraiment d'accord avec ce que dit mon frère. Ce qui me semble vraiment essentiel, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment de passer beaucoup de temps de cœur à cœur avec Jésus. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et puis d'apprendre à écouter Jésus me parler. Voilà, dans nos prières, souvent on parle beaucoup, mais on n'apprend pas beaucoup à écouter le Saint-Esprit. Donc tous les jours, Dieu veut me parler, il veut me dire quelque chose. Et moi, vous voyez, dans ma mission, ça m'arrive, quand Dieu me parle, il me montre des fois des images de personnes que je vais rencontrer, pour qui il veut que je prie. Mais si je parle sans arrêt, que je n'ai pas de temps de cœur à cœur avec lui, si je n'écoute pas, ben je vais peut-être passer à côté. Donc voilà, vraiment apprendre à écouter. Et puis l'autre élément qui me semble très important, c'est l'amour. Parce qu'en fait, on ne peut pas partir en mission si on ne sait pas aimer. Et moi, tous les jours, c'est vrai que je demande à Jésus de dilater mon cœur. Tous les jours, je me mets à genoux, je pleure beaucoup, je dis, Seigneur, je ne sais pas aimer. Je ne sais pas aimer. Seigneur, apprends-moi à aimer l'autre. Apprends-moi à voir dans l'autre ton visage. Ça, c'est vraiment, c'est très important. Et je ne sais pas si...
Je voulais vous faire réagir, Caroline, puisqu'on parle aussi de ce cœur aussi du missionnaire appelé vraiment à... cette descente au fond, hein, cette descente pour ouvrir et se laisser visiter par la tendresse du Père. C'est ce Père du ciel qui va venir dilater ce cœur de ce petit enfant. Et là, quand je parle de petit enfant, je ne peux me tourner que vers Danette Desbois, psychologue. Ce petit enfant qui est en chacun de vous, en chacun de nous, et souvent ce petit enfant qui est traumatisé, qui arrive à la vie et qui vit des premiers mouvements, finalement, où il y a la douleur déjà qui s'installe. Ce petit enfant doit apprendre à grandir, et c'est un peu ce que vous vivez dans votre métier, Daniel. L'écoute de l'autre et le laisser poser un peu, je dirais, ses bagages, hein, ses valises, hein, ses douleurs, ses traumatismes de la vie. On parlait de suicide, hein, et je pense à tous les parents qui sont parmi nous ou qui sont peut-être sur les ondes de nos radios, qui ont vécu l'épreuve d'un deuil et peut-être d'un deuil d'un enfant qui s'est suicidé, de personnes qui sont peut-être ici dans cette assemblée qui ont vécu le deuil d'un époux, d'une épouse, ou de manière violente, accidentelle. Là, ce sont des cœurs qui sont profondément meurtris, Daniel, des cœurs qui sont profondément, concrètement, dans cette vie quotidienne et qui n'arrivent pas toujours à se relever de ces traumatismes et de ces drames de la vie. Vous les écoutez? Alors, est-ce qu'on peut se relever? Est-ce qu'on peut arriver à 100% à consoler celui qui a le cœur trop, trop blessé?
Il faut l'espérer. Hier matin, je reçois un SMS d'une jeune femme qui me dit « j'ai envie de me suicider ». Je l'avais vue, je l'avais rencontrée il y a 5 ans à peu près. Et puis elle avait repris un élan de vie qui était merveilleux. Entre-temps, elle s'est mariée et elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Et c'est sa grande souffrance, comme c'est la grande souffrance de beaucoup de personnes. Et elle avait justement une cousine qui venait d'accoucher. Et puis elle devait aller à une amie elle devait aller visiter une amie qui venait d'avoir aussi un enfant. Elle me dit, c'est insupportable, dans son SMS, elle me dit, c'est insupportable, je ne peux pas, depuis des années que j'attends, je ne peux plus tenir, j'ai vraiment envie de me suicider. Donc vous voyez, quand la personne rentre dans la désespérance comme ça, c'est qu'elle n'arrive pas, et elle n'a pas les moyens à ce moment-là de gérer la vulnérabilité qu'elle vit à cause des blessures. C'est une jeune femme qui a été... un papa très violent. Elle est arrivée après trois filles avant elle. Il attendait un garçon. Et puis, malheureusement, entre guillemets, c'est une fille qui arrive. Donc, cette petite a flouflouflouffé pour plaire à son père, essayer de gagner l'amour qu'elle attendait. Mais en fin de compte, ce père, déjà, il était violent. Et il a tout fixé, sa violence, il fallait bien qu'il la projette sur quelqu'un. C'est elle qui a pris. Mais cette petite-là, comment voulez-vous qu'elle soit confiante en l'amour et en l'espérance et en la vie? Donc, elle est restée longtemps célibataire parce qu'en fait, les hommes, donc figure paternelle, les hommes, elle est rejetée, évidemment. Il y a des hommes qui lui ont déclaré son amour plusieurs fois, mais c'était impossible pour elle. Elle s'est retrouvée donc pendant longtemps célibataire. C'est là que je l'ai rencontrée, là, il y a 4-5 ans à peu près. Et elle a fait un travail sur ses blessures, après consolation, après restauration, comme je disais tout à l'heure, de sa dignité d'être. Elle a pu ouvrir son cœur et trouver un homme gentil. Elle demandait que ça, un homme gentil, qui a su l'aimer, qui a su la chérir, qui a su la consoler, restaurer toute la souffrance et toute l'indignité qu'elle vivait d'avoir été rejetée en tant que fille, femme, mère. Maintenant, cet homme ne peut pas lui donner la grâce d'être maman. Donc, vous voyez comment une blessure peut être encore à nouveau ouverte. C'est vrai que c'est pas simple, parce que je me disais, mais qu'est-ce que tu vas répondre à cette petite, là, à cette jeune femme? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Moi, je ne peux que prier, lui dire, mais dans la mesure où vous perdez l'espérance, vous perdez le Christ. C'est le Christ qui est l'espérance. Si tu perds l'espérance, tu perds le Christ. Et à la fin du SMS, elle me disait, je me demande où est Dieu. je l'ai perdu. Mais vous voyez, c'est normal. Et en même temps, comment faire pour aller vers ces gens-là? Bon, en plus, elle est à Marseille. Sinon, essayer de la prendre, on a envie de la consoler, on a envie de la prendre dans ses bras. Elle ne demande qu'une seule chose, c'est d'être consolée. De lui dire, tu es une bienheureuse, tu es une fille bien-aimée du bon Dieu, et qu'elle sente ce contact. Mais c'est difficile. Mais on y arrive quand même.
Hein. On y arrive.
On y arrive.
Ah oui, une parole d'espérance.
L'important, c'est que l'important pour moi, c'est important que la personne dise « j'ai envie de me suicider ». Une personne qui ne le dit pas, quand elle le fait, c'est trop tard. Elle le dit par acte. Là, au moins, quand la personne le dit, c'est pas grave. Bon, je l'ai relancé, je lui ai téléphoné. Après, bon, la pression baisse. Mais c'est fondamental que la personne puisse le dire. Là, au moins, on est presque, je dis bien presque garanti qu'elle ne passera pas à l'acte. Mais quand il y a silence, là, c'est dramatique.
Merci, Daniel. Alors, il y a quelques questions qui commencent à arriver. Donc, on va peut-être un peu ouvrir et présenter ces questions. Et j'ai bien envie de me tourner vers Caroline, qui est mère au foyer, maman de 8 enfants. Et au fond, Caroline, c'est un cœur de maman. Voilà, un cœur d'épouse, mais un cœur de mère. Et quand on pense à la mère, on pense aussi à notre mère, au pied de la croix. Cette mère, c'est Marie. Voilà. Marie, médiatrice de toute grâce. Marie, médiatrice de toute consolation. Alors, une question. Il ne faut pas paniquer, hein, Caroline. Et c'est à la mère de famille. Peut-on témoigner de l'amour quand nous ne l'avons pas connu dans l'enfance? Et je ne me tourne pas vers notre psy de cette table ronde, mais vers la maman, voilà. Peut-on témoigner de l'amour quand nous ne l'avons pas connu dans notre enfance? Bien s'approcher du micro, merci Caroline.
Alors je pense que oui, je répondrai oui à cette question. Partir du moment où on se laisse consoler d'abord par Jésus. En fait, quand on a des grosses souffrances, c'est très important d'abord de demander à Dieu d'abord de nous consoler, de nous visiter. Et une fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, et ben c'est en fait Jésus il fait toutes choses nouvelles en nous. C'est pas parce qu'on est très blessé qu'on a manqué énormément d'amour qu'on peut pas en donner à notre tour. C'est l'amour qui va guérir les blessures d'amour. Si je peux compléter, moi je m'occupe actuellement d'un petit groupe qui s'appelle le Bon Samaritain, que j'ai fondé il n'y a pas très longtemps, et je le confie à votre prière. J'ai rencontré un premier jeune homme qui avait une vingtaine d'années à la gare à Versailles. Il était vraiment dans des situations très difficile, il était complètement perdu. Je devais prendre mon train, j'étais très pressée, mais la compassion m'a saisi le cœur comme ça. J'ai vraiment senti l'appel de Dieu à prier ne serait-ce qu'une minute pour lui. Je me suis approchée de lui, j'ai vu que la lumière de Dieu venait sur sa vie. Je lui ai donné une petite Bible et j'ai écrit mon numéro de téléphone. Vous voyez, ça m'a pris une minute. Et deux jours après, ce jeune homme m'a téléphoné. Il m'a dit « Caroline, ta prière m'a fait beaucoup de bien, mais j'ai vraiment besoin que tu m'aides, s'il te plaît, ne me laisse pas tout seul. » Je me suis dit « Comment je vais faire ?» parce que c'était un jeune homme qui était dans la rue. Je lui ai dit « Viens à Rambouillet. » Donc on l'a fait venir, on a pris le temps de prier et de rentrer plus profond dans ses blessures, de demander cette consolation à Jésus. Et puis j'ai appelé les services sociaux de la ville, voilà, pour lui trouver un logement. Et puis il m'a dit « Caroline, je suis tellement touchée par toutes ces grâces. Je connais un autre monsieur qui dort avec moi par terre dehors dans le froid. » C'était au mois de janvier de cette année. Il m'a dit « S'il te plaît, accueille-le dans ta maison. » Donc j'ai accueilli une deuxième personne qui venait d'Afrique. Voilà, il a été aussi très touché. Alors ça a été pas seulement... voyez, c'est vraiment des gens qui ont... Ça faisait 5 ans qu'il était dehors, comme ça, dans la rue. Et en fait, ce qui l'a vraiment touché, c'était... Oui, ma prière l'a touché, mais surtout de lui donner de l'amour, de l'accueillir, de sentir qu'il avait une dignité. Il m'a dit « Caroline, je connais une jeune femme, elle est toute seule avec son bébé. Est-ce que tu veux bien l'accueillir ?» Alors, je l'ai accueillie aussi. Et quand on a prié pour cette jeune femme, elle avait des traces de coups de couteau sur tout le visage. C'était un mur. En fait, elle n'exprimait rien. C'était vraiment un mur. Elle pleurait pas. Elle était, voilà, on avait face à nous un mur. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Le Seigneur me dit, l'amour guérit les blessures d'amour. Et j'ai commencé à la prendre dans mes bras, à lui donner beaucoup d'amour. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce monde-là? J'avais 3 personnes. Et en fait, mon accompagnatrice m'a dit, mais peut-être que tu pourrais monter un groupe. Et il est venu de plus en plus de personnes. Donc là, j'ai un petit groupe de réfugiés, de personnes qui sont très blessées par la vie. J'ai notamment un Rwandais. Il était en prison. Ils l'ont battu à mort. Et ils l'ont violé, torturé. Et quand on l'a accueilli, vous savez, on ne peut que pleurer avec eux, en fait. On ne peut que pleurer dans des situations comme ça. On l'a accueilli. On lui a trouvé une association dans laquelle il peut un peu travailler. On lui a trouvé des familles pour l'accueillir. Et puis, je l'ai accueilli dans mon petit groupe. Et c'est quelqu'un qui reprend vie. En fait, ce qui est merveilleux, c'est de voir ces personnes qui reprennent vie malgré toutes leurs blessures. Et ben, elles reprennent vie grâce à Jésus. Et quand on se rassemble, vous savez, on fait un petit repas tous ensemble. On lit la parole de Dieu, on loue le Seigneur. Parce que la louange, ça fait tomber aussi. Quand on regarde toujours vers nos problèmes, en fait, c'est comme si on était aspiré par les problèmes. Et la louange, c'est une force qui nous tourne vers Dieu et qui fait abattre ces murs de problèmes qui sont en nous. Donc on loue beaucoup avec mes petits Africains. On passe beaucoup de temps à louer le Seigneur. Ah. Et voilà, du coup,
vos c'est... petits Africains, on sent bien que c'est une maman qui parle. Oui, donc aussi merci pour ce beau témoignage et puis au fond cet appel du Seigneur qui vous a invité à répondre naturellement à la mission, à l'accueil de toutes ces personnes. Alors il y a des questions, je me tourne vers Olivier qui est marié, donc qui est papa aussi de 4 enfants, et là on a une question, je pense que pour cette personne qui est parmi nous, c'est une période un petit peu douloureuse. Elle nous dit, j'ai vécu une rupture de fiançailles il y a quelques mois qui a été très, très douloureuse. Donc, on pense à vous maintenant. Comment consoler alors que, en fait, cette personne qui est ici, donc est douloureusement encore affectée par cette rupture, et elle se pose la question, comment elle, à son tour, va-t-elle pouvoir, au fond, répondre dans ce congrès mission maintenant, à être missionnaire et consoler à son tour, alors qu'elle a besoin d'une grande consolation, lui ou elle?
Le commandement de Dieu nous dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton être. » quoi. Et cette parole, ce commandement, tu le méditeras jour et nuit et tu l'enseigneras à tes fils pour dire comment c'est important. Et l'Ancien Testament, et Jésus le reprend ensuite, complète en disant « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » J'ai pas la réponse à ta question. Comme ça, je ne te connais pas. Mais ce qui me vient là dans le cœur vraiment, c'est d'abord prends soin de toi. Prends soin de toi. Pour ensuite pouvoir consoler autour de toi ceux qui peut-être vivront la même expérience. Mais d'abord, prends soin de toi. Vous l'avez rappelé, je suis marié avec Nadège. Avant de connaître Nadège, je me suis marié, j'avais 29 ans. Je vous assure que j'ai cheminé avec beaucoup de filles. Quand je dis cheminer, les gens pensent, ils s'embrassaient, pas du tout. Mais d'un amour incroyable. Et puis il y en a une qui un jour me dit, oui, je t'aime. Puis après, 3 jours après, elle me dit, non, en fait, je vais être religieuse. Puis 3 jours après, non, c'est toi que j'aime. Ah non, je vais être religieuse. Et moi, devant le Seigneur, de dire, mais il faut qu'elle soit libre. Et moi, de faire le pas de côté pour la laisser libre, pour que son choix soit un vrai choix. Elle est aujourd'hui religieuse, amen. Gloire à Dieu. Mais quelle souffrance. Quelle souffrance. Une autre jeune fille qui Elle était sur Paris, au moment où je rentre chez moi, au train, elle me dépose sur mon sac un livre sur les fiançailles. Je me dis, ben, elle souhaite qu'on se fiance, ça y est. Waouh ! Puis quelques jours après, elle m'annonce que c'est fini. Et j'apprendrai que, je suis en train d'écrire ma petite histoire sainte avec le Seigneur, et donc je l'ai recontactée parce que je n'ai pas compris en fait. Et elle me dit en fait, ce qu'elle cherchait en fait, c'était de se marier, et que comme il y avait de l'amour, mais que finalement, en discernement, ben, c'était pas moi. Bon, alléluia. Mais quelle souffrance. Quand j'étais chez les frères, et c'est le dernier exemple que je vais donner, j'ai cheminé avec une jeune fille, j'étais au lycée, on s'écrivait. À l'époque, c'était les lettres et puis la carte qu'on achetait pour téléphoner, donc 2 minutes rapides, parce que c'était, hein, fallait banquer, quoi. Et pendant 2 ans, moi, je me disais, mais non, si je lui déclare ma flamme, je veux être sûr, je veux que ce soit vrai, que ce soit authentique et tout. Et donc, 2 ans après, je lui déclare ma flamme, après 2 ans de cheminement, comme ça, d'amour sincère. Et elle me répond, mais Olivier, tu es chez les religieux, je pensais que tu allais être religieux, donc je me suis interdit de t'aimer. Ah ! Aujourd'hui, ce que je peux témoigner, ça ne va pas forcément te consoler là, maintenant, tout de suite, mais c'est mon histoire que je te partage. Aujourd'hui, ce que je peux témoigner, c'est que ce vécu-là me permet, de, quand je rencontre et que je discute avec des personnes qui vivent cette... Bah, de trouver des mots dans cette discussion, dans cet échange, parce que le Seigneur vient chercher à travers cette expérience-là la consolation pour les autres. Donc oui, ce moment que tu vis est dur. Il est dur. Mais je regarde devant. Tu regardes devant, dans l'espérance. Pour répondre aussi un petit peu à la question que tu as reçue juste avant, j'avais ce mot-là de dire, mais Jésus, vis-le au présent. Mon passé est au passé, Seigneur, je te le donne, je te le confie. Viens guérir, viens restaurer, viens me relever dans ce qui a été blessant, dans l'amour que je n'ai pas reçu, etc. Mais Jésus, je veux te vivre au présent et il agit là maintenant.
Amen. Alors, une question, je me tourne vers...
Je peux rajouter quelque chose par rapport à la consolation.
Tout à fait, oui, c'est permis, hein. Oui, oui.
Donc, c'est aussi pour répondre à cette personne là qui a... qui demande, et en fait, que j'ai besoin d'être consolé. La plupart du temps, quand on est dans la souffrance, quand on est dans la tristesse, et qu'on a besoin d'être consolé, on va au pied de la croix et on dit « Seigneur, console-moi ». Combien de fois j'ai entendu les personnes qui me disent « Mais j'étais au pied de la croix, j'ai rien ressenti ». J'ai dit « Peut-être que ça se passe... sur la croix. Oui, mais qu'est-ce que je fais sur la croix? Si je vais sur la croix et que je m'adresse à Jésus, qu'est-ce que je fais? Console-le. Jésus, il attend une seule chose, c'est qu'on le console. La plupart du temps, nous, quand on est en difficulté, on a besoin d'être consolé, ce qui est normal. Mais la consolation que je vais recevoir, elle va d'abord passer par la consolation que je vais donner à Jésus. Je lui dis, mais comment, moi, une petite consolation va consoler Jésus? Je ne suis pas grand-chose pour consoler Jésus. Oui, tu n'es pas grand-chose, mais Dieu a besoin de ta petite consolation pour que le Père vienne consoler son Fils. Par ta petite consolation, je suis là au milieu de la Trinité. Ce n'est pas moi qui vais consoler. Mais la consolation que le Père va donner à son Fils va me consoler. C'est là que Jésus me console. Parce que humainement, c'est difficile de consoler quand on est dans les moments dramatiques. C'est difficile d'être consolé humainement. On ne peut être consolé que divinement. C'est la consolation divine qui va laver, qui va restaurer et qui va permettre de passer de la désespérance à l'espérance.
Alors, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes les questions. J'avais envie de me tourner encore vers Père Daniel, mais j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Spontanément, Olivier, Caroline, Daniel, je ne sais pas, je pose la question, et celui qui a un premier mouvement, qu'il réponde vraiment dans ce mouvement de l'instant présent, comment consoler les personnes blessées par l'Église elle-même? C'est une grande question, mais ça fait partie aussi, et c'est le cœur aussi de ce thème.
Moi, je veux bien répondre.
Allez-y, Caroline.
Je veux bien répondre parce qu'on a eu le cas de quelqu'un juste cette semaine. Donc, je me dis que c'est peut-être un signe. Voilà. Dans le cadre de notre groupe de prière, on va dans la rue toutes les semaines pour prier pour les personnes, donc tous les jeudis matin. Et là, ce jeudi, on est allé vers un monsieur qui était assis sur un banc Et ce monsieur, il avait quitté l'église parce qu'il était atteint d'un cancer et il ne s'est pas senti du tout soutenu par la communauté chrétienne, la communauté catholique de Rambouillet. Et du coup, il nous a dit qu'il avait été tellement peiné que personne ne prenne soin de lui dans sa maladie, qu'il avait décidé de vivre sa foi tout seul et de quitter l'église. Et quand on a prié pour lui, le Saint-Esprit m'a mis dans le cœur de lui demander pardon au nom de l'église, parce que moi je fais partie de cette église. Et donc je lui ai pris la main, je lui ai dit: Monsieur, au nom de l'église catholique de Rambouillet, moi qui en fais partie, je vous demande pardon parce qu'on n'a pas su prendre soin de vous, on n'a pas su vous écouter et vous accompagner. Voilà, on a fait cette démarche de pardon ensemble et on a prié pour qu'il reçoive une grâce de consolation et de paix sur lui.
Merci, merci. Un témoignage récent. Olivier et Daniel, vous pouvez peut-être l'un et l'autre répondre aussi à cette question.
On pourrait donner plein d'exemples en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait dire pour chaque situation, etc. Mais je pense que l'essentiel, c'est d'avoir un cœur de compassion. On l'a dit tout à l'heure, c'est de revenir avec Jésus, de passer du temps avec Jésus, pour que notre cœur soit un cœur de compassion. Un exemple cette semaine, mon épouse me dit, c'était dimanche, il y a un monsieur dans mon village qui allait pas bien, et la famille disait: ah, tiens Olivier, si tu pouvais venir le rencontrer. C'est une famille, lui j'ai parlé quelques fois à la sortie de l'école, etc. Mais je connaissais pas plus que ça. Ça faisait 2 ans qu'il vivait avec le cancer, il se battait contre le cancer, donc on a eu l'occasion d'échanger. Il savait que j'étais chrétien, parce que je m'en cache absolument pas. C'est ma joie. Voilà. Et elle me dit ça: ah, il va pas bien en ce moment, la famille aimerait que tu passes. J'ai pas saisi l'importance du moment. Je passe à l'improviste 2 jours après, j'arrive, il y a sa fille qui est là, je lui dis: alors comment va Patrick? Elle me regarde et dit: bah, il est décédé hier. Ah, choc. La famille m'introduit dans la maison, dans la chambre, et ils attendaient de moi simplement que je sois là. Et donc ils m'ont laissé tout seul. J'ai prié pour Patrick. Après, j'ai passé du temps avec la famille, ils m'ont offert un café. Et là, franchement, ma place, c'était quoi? Le Seigneur me disait: mais Shema, écoute. Traduction, c'est tais-toi. Tais-toi, écoute. Et j'étais là avec eux, simplement. Ils m'ont demandé de venir le lendemain au cimetière. Il n'y avait pas d'office, pas de prêtre, pas de chrétien de la paroisse, que dalle. Le cercueil arrive, 3 chants païens, profanes, on va dire. Des textes qui étaient beaux, mais voilà. Et puis, dans les pleurs, ils attendaient juste qu'Olivier soit là. Pas parce qu'Olivier, ou... Bon, j'appréciais Patrick, évidemment. Mais là, ils reconnaissaient quelque chose de spirituel fort. Et du coup, voilà, j'ai pu me signer devant le cercueil. J'ai vu quelques personnes qui se sont signées quand même. Il y a eu quelques mots d'échanger au niveau du sens de l'éternité, de quelque chose d'au-delà. Mais vous voyez, il n'y a pas de schéma, quoi. Par contre, un cœur de compassion. Et tu écoutes, Shema, et tu obéis. Les témoignages que tu donnes, que vous donnez, sont dans ce sens-là. J'obéis à ce que le Seigneur me demande sur le moment. Plus je vais fréquenter le Seigneur, plus je vais connaître sa voix. Vous savez, mon épouse, il faut que je fasse vite. Mon épouse, quand elle parle, selon le ton de sa voix, je sais comment elle va.
Vous connaissez la température.
Et donc je sais si je marche sur des œufs ou si je peux y aller franco. Okay? Avec l'Esprit Saint, c'est pareil. Plus je l'écoute, plus je connais le son de sa voix, plus je vais pouvoir être docile.
Alors merci. Hein, vous avez... Alors c'est une question dans l'Assemblée. Elle s'adresse à vous, Daniel. Je suis médecin généraliste. Les patients livrent souvent des situations de souffrance. Faut-il avoir le réflexe de demander s'ils croient en Dieu? S'ils disent non, que répondre? Vous souriez.
On peut passer à la question suivante.
Non. Ah non, désolé.
Je pense qu'en tant que médecin, on a un cœur déjà de compassion, sinon on ne serait pas médecin. Je crois que la personne a juste besoin d'être écoutée. Elle a besoin d'être écoutée. Et puis c'est un moment, quand il y a une confiance qui est vraiment entière, qui est établie. Là, je sais que, personnellement, c'est ce que je fais. Quand les personnes sont vraiment dans la relation, quand elles ont confiance, qu'elles sont un petit peu abandonnées à ce que je peux leur dire, je peux leur poser la question. Souvent, je propose à une personne qui n'est pas du tout croyante, quand elle est en grande difficulté, je dis, est-ce que vous accepteriez d'aller dans une chapelle si elle est ouverte ? Vous mettez dans un petit coin, vous restez 10 minutes là, et puis vous laissez faire. Simplement, ne cherchez pas à dire, à parler, à prier. Même si vous n'avez pas prié, ne vous inquiétez pas, vous restez là, un petit moment, et vous attendez. Quand elle est en confiance, elle y va, la personne. Et puis, de retour, quand elle revient, je demande alors, vous avez pu y aller ? Elles me disent oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sens qu'il y a quelque chose en moi quand je suis là. Mais le problème, c'est quand je ressors, je me retrouve comme avant. Bon, ce qui est un petit peu normal. Mais déjà, le fait de savoir que dans une chapelle, dans une église, il y a quelque chose qui m'échappe, mais qui me fait du bien, c'est déjà une amorce d'un passage de l'Esprit Saint. Alors bon, quand on est en tant que médecin, je pense qu'on est porteur du Christ, quel que soit même une mère de famille, un père de famille, on est tous porteurs du Christ, hein, quand on est croyant et quand on est priant. Si on n'est pas priant, évidemment, c'est moins vrai. Mais quoi qu'il en soit, je crois que c'est ce qui émane de la personne qui va permettre qu'en face, il se passe quelque chose. L'amour passe. Heureusement, d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais enfin...
Si, oui, alors, Olivier...
Ah, en fait, j'ai envie de dire, mais sois juste obéissant. Si à un moment donné, dans ton cœur, tu sens qu'il faut que tu puisses en parler, fais-le. Si tu penses que ce n'est pas opportun, ne le fais pas. Écoute, chemin, écoute le Saint-Esprit, ce qu'il suscite en toi, et quand il suscite qu'il faut que tu mettes des mots, ose le faire, sois obéissant, ose le faire. Mais certainement que ce ne sera pas la majorité des cas. Peu importe, mais c'est l'obéissance qui compte au Saint-Esprit. Et après, lui, il agit. Il me semble, hein. Je partage comme ça les choses. Hein.
Je sais que il m'est arrivé de parler, d'anticiper, d'aller un petit peu trop vite par rapport à une personne, semble-t-il, et que la personne l'ait mal vécue. Mais curieusement, X temps après, elle vient et dit « Heureusement que vous m'avez dit cela ». Au moment où ça a été dit, ce n'était pas le moment. Mais quoi qu'il en soit, c'est rentré. Et puis, quand c'est le moment, tout d'un coup, paf, ça donne sens à la personne. Et ce qui fait que ça l'aide à faire le passage, quoi.
Alors, il y a une question qui me paraît quand même intéressante. Je ne sais, peut-être Daniel, Olivier, lequel d'entre vous. Quelle place pour des gestes corporels de consolation en thérapie ? Quelle place, en fait, je pense que la personne qui est ici dans l'assemblée fait peut-être elle-même, je ne sais pas quel type de thérapie, mais au niveau corporel, jusqu'où peut-on aller dans la consolation qui va finalement parfois approcher quelqu'un avec vraiment ce cœur de compassion, s'approcher d'un frère, d'une sœur en larmes et peut-être le prendre dans les bras, mais jusqu'où cette gestuelle peut aller du missionnaire qui finalement, dans l'instant présent, vit vraiment cet appel à se faire proche de ce frère souffrant, ce frère qui a mal. Faut-il finalement approcher, tenir par la main, par l'épaule ? C'est encore la maman, Caroline, qui veut répondre ? Allez-y.
Moi, je dirais que ça dépend vraiment des situations, ça dépend, on ne peut pas donner une réponse comme ça. Il faut vraiment demander au Saint-Esprit sa sagesse et il faut toujours avoir le discernement aussi. Donc on ne peut pas répondre à l'avance, ça dépend vraiment, ça dépend des situations. Voyez, moi hier, en arrivant près de la gare, j'ai vu un monsieur qui était par terre. Je me suis mise à genoux avec lui, il a pleuré dans mes bras, je l'ai pris dans mes bras. Et j'ai appelé la consolation de Dieu sur lui, mais je ne l'aurais pas forcément fait pour une autre situation. Vous voyez, en fait, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit, demander beaucoup cette sagesse à Dieu. En fait, on ne peut pas dire « fais ci à telle situation », en fait, ça dépend vraiment. Il y a des personnes, ça va leur faire peur. Il faut écouter « qu'est-ce que te dit le Saint-Esprit ?» Sentir dans son cœur, voilà, se mettre vraiment à l'écoute.
— Alors, est-ce qu'on aurait des conseils pour aborder donc des personnes blessées? Mais vous avez donné les uns et les autres aussi quelques pistes de réflexion qui ne semblent pas d'abord désirer être consolées. Comment aller au cœur et non à la simple périphérie? C'est-à-dire au cœur, comment aller en profondeur vraiment sans contourner, sans vitrine, sans surface, je dirais en toute simplicité. On n'est pas là pour la vitrine, on n'est pas surtout des missionnaires pour paraître. Comme disait saint Thomas d'Aquin, au fond, enfin pas saint Thomas d'Aquin, mais on n'est pas là pour briller. Vous tous, témoins ici présents, qui avez dit oui pour cette table ronde, vous êtes des témoins, mais celui qui doit briller, et qui doit briller dans le cœur des missionnaires, c'est Jésus qui doit briller. Le cœur du missionnaire doit laisser toute la place à Jésus. Voilà. Et si le cœur du missionnaire laisse toute sa place à Jésus, et bien même le cœur le plus dévasté, ben Jésus est capable de tout, parce qu'on lui laisse la première place. On ne cherche pas à briller en tant que missionnaire. Est-ce qu'on ne brille pas parfois dans la mission? Voilà. Est-ce que ce n'est pas le risque aussi du dérapage? Voilà, on missionne, on parle au nom de Jésus, mais on brille. Non, ce n'est pas ça la mission.
Oui, il y a une chose formidable pour éviter de briller.
Allez-y,
c'est toutes
ça brille.
Toutes les claques qu'on peut se prendre aussi.
Oui.
Vraiment. Mais par rapport à la question pour aller au fond, au cœur, là me venait, qui a dit ça, pour les prêtres, quand tu célèbres l'Eucharistie, célèbre-la comme si c'était la première et la dernière. Donc en fait, donne tout. Et par rapport à cette question, j'entendais ça. Quand tu es en mission, tu as ton frère, ta sœur qui est devant toi, c'est le moment opportun. C'est le moment où Dieu veut se révéler. C'est le moment où Dieu veut venir toucher, guérir, délivrer, rectifier, rendre droit, consolider la colonne vertébrale pour que la personne puisse être debout, de nouveau goûter à la vie, à l'amour, à la joie. C'est le moment opportun, c'est le temps de Dieu. Donne tout. Mais donne tout, ce n'est pas du prosélytisme. Ce n'est pas « j'arrive et je vais te dire ce qu'il faut que tu crois, je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses ». Le « donne tout », c'est « donne-toi toi-même ». Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et ceux que nous aimons, ce sont ceux que Dieu aime. Il s'est livré pour eux, pour chacun d'entre eux. Et je crois que la clé, elle est là, c'est chaque rencontre, chaque moment, plénitude de la présence de Dieu.
On parle de consolation et on parle beaucoup de la mission. Vous ne parlez que de la mission. Et c'est un peu l'objet aussi du congrès mission. Daniel, ce cœur de missionnaire qui est appelé dans ce moment présent, parfois à consoler, parfois dans le silence, parfois dans un cœur qui écoute. Est-ce que le rendez-vous du missionnaire n'est-il pas pour qu'il y ait cette fécondité de Jésus, de restauration, de guérison dans le cœur des hommes et des femmes blessés? Un rendez-vous au fond pour tout missionnaire au pied de cette croix, au pied de Jésus, où se tient Marie, sa mère.
Oui. Quelle que soit notre mission, on est des représentants du Christ. En fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que même, on est toujours en... Il y a toujours une difficulté à recevoir l'Esprit Saint. Il y a toujours une difficulté à recevoir ce que Dieu veut donner pour une personne. Je vais vous dire pourquoi. Même une action, une œuvre que nous allons faire, toute belle, toute spirituelle, toute merveilleuse, qu'elle puisse être... Elle n'est jamais gratuite.
Je crois que j'ai envie qu'on
elle n'est jamais gratuite parce qu'on a toujours besoin d'un retour
couture,
sur soi.
Que c'est, tu le sentiras
on a
bien.
Besoin d'être confirmé, d'être soi-même consolé. Je te remercie pour ce que tu as fait. C'est beau, c'est merveilleux. Vous voyez, on prend toujours au passage. Et je me rappelle une amie qui était une grande, très, très spirituelle, une très, très belle âme et très au service, toute donnée aux autres. Et puis elle s'est tellement donnée aux autres qu'un jour elle est arrivée jusqu'au burn-out. Et elle est tombée en dépression. Elle a passé de longs mois à vivre sa dépression. Et puis, quand je la revois, je lui demande quel est le sens de ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as appris au travers de cela. Elle me dit, mais douloureusement, elle me dit, je me rends compte que j'avais besoin de la souffrance des autres pour pouvoir exister. Je trouve ça merveilleux qu'elle puisse le dire, mais c'est, elle a eu conscience combien elle prenait au passage pour exister. Mais il faut bien se dire que nous, en tant que missionnaires, on vit, quelle que soit notre mission, on vit le même danger. Heureux de faire ce que l'on fait dans la joie, et c'est ce qu'on a à transmettre. Mais en même temps, on a toujours une part de soi, plus ou moins importante, qui nous revient, dont on a besoin. Alors évidemment, le Seigneur, il nous demande de nous vider pour que lui augmente. C'est Jean-Baptiste qui nous dit, il faut que je diminue pour que lui augmente. Mais quand on est pauvre, quand on est dans la pauvreté, on a envie d'être riche. Et le paradoxe du chrétien, c'est justement, c'est quand tu es pauvre que tu vas être riche, c'est quand tu vas mourir que tu vas vivre. C'est des réponses qui sont bizarres, en fait. Mais c'est ça, être chrétien. Et donc, juste pour la personne qui a posé la question sur le contact, faut bien se dire que si je touche quelqu'un, il faut, comme cela a été évoqué, qu'il y ait une perception, que je sente que je peux y aller. Mais si j'y vais, c'est pas moi qui touche la personne, c'est le Christ qui la touche. Si je la touche, au passage, il y aura toujours un transfert ou un contre-transfert qui se fera. Donc vous voyez, la délicatesse, c'est d'être à une juste place, ce qui n'est pas évident. Mais c'est sûr qu'une personne, je vais pouvoir la toucher parce que je le sens, mais une autre personne, je sens que peut-être elle attend cela, et là il vaut mieux être prudent. Si elle ne l'attend pas parce qu'elle est dans une vulnérabilité, une pauvreté, comme les exemples qui ont été donnés, quand la personne est dans une grande vulnérabilité, si je la touche, c'est que je veux dans mon cœur dire « Seigneur, c'est toi qui la console, c'est toi qui la touche », là le passage se fait, il n'y a aucun danger.
Merci Daniel, merci Caroline, merci Olivier. Il nous reste, ce sont les 5 dernières minutes, j'ai un peu dépassé. Et je voulais très simplement, puisque c'est une table ronde sur ce thème de la compassion, de la consolation, nos armes missionnaires, et puis vous participez à ce congrès mission. Et finalement, ce congrès mission est fait pour peut-être rebooster certains d'entre vous. Vous êtes peut-être, certains d'entre vous, découragés, peut-être dans cet essoufflement, avec, je dirais, des crises multiples, les crises aussi que nous connaissons à l'intérieur même de l'Église, et puis des hommes et des femmes qui ont été blessés et qui sont encore blessés profondément. Alors, comment être reboosté? Comment garder confiance? Et comment rester vraiment et devenir aujourd'hui, demain, et puis pour tous les jours de votre vie, ce bon missionnaire dans l'humilité, dans l'humilité et l'obéissance, puis dans le discernement, parce que dans l'instant présent, il faut aussi être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est lui qui guide, c'est lui le consolateur. Voilà, le missionnaire est vraiment l'humble serviteur. Voilà. Et je vous propose, vraiment en toute simplicité, ce n'était pas programmé, mais je propose de terminer cette table ronde en toute simplicité, puisque le congrès mission est un temps aussi de prière, qu'il soit un temps pour vous aussi, là, maintenant, de recevoir, si certains d'entre vous ont besoin, de recevoir cette consolation du Père. Et je propose à Daniel Desbois, Caroline Basque, et je vous remercie, et Olivier Fermont, de clôturer avec vraiment un petit temps de prière et presque d'envoi en mission. Devenez, même si votre cœur est brisé, devenez à votre tour consolateur. N'ayez pas peur.
Pour introduire ce temps de prière, une petite citation de notre cher pape François à Marseille dans son homélie. Apprenons de Jésus à éprouver des frémissements pour ceux qui vivent à nos côtés. Apprenons de lui qui, devant les foules fatiguées et épuisées, redonne de la compassion et s'émeut, tressaille de miséricorde devant la chair blessée de ceux qu'il rencontre. Le thème de cette table ronde, c'était compassion et consolation, nos armes missionnaires. Et finalement, on se rend compte que compassion et consolation, il faut être désarmé. Il faut être désarmé. Et demander à avoir un cœur qui bénit. Et peut-être, je vous propose que ce temps de prière soit dans ce sens-là, qu'on demande au Seigneur la grâce de la bénédiction. Parce que dans notre tête, nous avons des préjugés. Nous avons des gens autour de nous qui nous ont blessés, etc. Et on a du mal à entrer dans cette consolation, cette compassion. À partir du moment où je vais bénir ceux que je rencontre, bénir les gens de ma famille, mes amis, ceux qui sont dans ma rue, ceux qui sont dans mon travail, etc. Je vais bénir, bénir, bénir. Mon cœur va de plus en plus devenir un cœur de chair et donc un cœur de compassion et de consolation. Abba, Papa, Père éternel, nous te bénissons pour ta présence en ce lieu maintenant, au milieu de nous. Abba, Papa chéri, tu as déversé ton cœur d'amour sur l'humanité au point d'envoyer ton propre Fils, ton Fils chéri, ton Fils unique, venu sur terre et mort et ressuscité pour nous, pour chacun d'entre nous, pour toi. Demandons Père, Abba, Père de bénédiction, de venir nous bénir maintenant et de nous donner cette grâce de bénédiction pour que, à partir de maintenant, toutes les personnes que nous allons rencontrer, que nous puissions les recevoir comme des cadeaux de toi, Seigneur. Chaque personne, chaque jour, que nous puissions les bénir dans ton nom, Seigneur. Et nous te bénissons, nous te remercions pour tous les frères et sœurs que tu nous donnes et que tu vas encore nous donner. Amen, Seigneur. Amen. Dilate notre cœur, Seigneur. Dilate notre cœur, Seigneur.
Jésus. Oui, Seigneur, je me sens vraiment pas capable de faire tout ça, Seigneur. Et c'est justement parce que je suis faible que tu m'as choisi, Jésus. Saint-Esprit, je te demande vraiment de faire que ton Église se lève pour toi. Ton Église qui est si souvent endormie. Saint-Esprit, je te demande vraiment de réveiller les consciences. Réveiller le cœur parce que c'est notre monde qui crie. Seigneur, je te demande de venir par ton Saint-Esprit visiter le cœur de chacun des frères et sœurs en ce moment. De venir enlever toute peur. Je te demande un esprit d'audace, Seigneur, au nom de Jésus. Recevez cet esprit d'audace au nom de Jésus. Que toute peur tombe dans la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Que vous puissiez être des petites lumières pour notre monde de ténèbres et goûter à la joie du ciel d'annoncer Jésus. Amen.
Amen.
Merci Seigneur d'être venu dans ta vulnérabilité, dans ta pauvreté, Seigneur. Tu es venu sur une croix nous donner la vie. Merci Seigneur de nous aimer, de nous amener tout doucement vers cette croix. Que notre vulnérabilité soit un signe de ton amour, Seigneur. Que toute épreuve que nous traversions, Seigneur, que nous soyons présents avec toi, que nous soyons tout abandonnés à toi. Que ta divine volonté, Seigneur, que ta divine volonté vienne imprimer ton amour dans notre cœur. Merci Seigneur de nous permettre d'être vulnérables sans crainte. Merci Seigneur de nous rejoindre là dans nos pauvretés, dans nos blessures, là où tu nous attends Seigneur. Tu es venu pour cela, le rendez-vous Seigneur. Et dans nos blessures, dans ta blessure, c'est la même blessure Seigneur. C'est là où il y a la peine, c'est là où il y a l'amour, c'est là où il y a la vie Seigneur. Aide-nous Seigneur à te dire fiat Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen.
Amen,
ouais.
Seigneur, merci aussi de nous rappeler que là où sont vos blessures, nos blessures, là aussi, et c'est tout l'humour du Seigneur, là sera aussi votre mission. Une mission qui sera une mission aussi de consolation pour cette fécondité, mais en effet, le Seigneur est bon dans nos fragilités, vos fragilités, dans ces pardons qui ne sont pas donnés, ces cœurs peut-être parmi vous qui sont endurcis. Eh bien, le Seigneur veut vous rappeler que chacun de vous, on est fait pour l'éternité, en fait, on est fait pour le ciel. Donc, n'ayons pas peur de répondre pendant ce congrès mission à être et devenir vraiment missionnaire avec ce cœur de compassion et de consolation, dans la joie, dans l'espérance et la confiance. Merci Seigneur. Je remercie Daniel Desbois, Caroline Basse et Olivier Fermont. Et merci à vous tous.
Merci à toi Nathalie.